Docteur Brima Elidko, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc coordinateur scientifique de travaux sur le livre blanc de la société civile pour la paix et la sécurité au Mali. C'est quoi cet ouvrage? Comment est-ce que vous le concevez, comme un outil d'aide à la décision ou un outil de bonne gouvernance?
Le livre blanc, c'est vraiment le fruit d'un travail inclusif de tous les centres de recherche au Mali, de toutes les associations qui travaillent pour la paix et la sécurité au Mali. C'est un processus qui a duré au moins 3 ans avec des enquêtes qualitatives, quantitatives et des restitutions collectives à Bamako. Donc c'est un outil qui se veut être un outil de plaidoyer, un outil d'aide à la prise de décision pour les responsables politiques. Parce que vous savez qu'il y a 18 stratégies Sahel, mais malgré tout, l'insécurité se propage et on n'arrive pas à juguler l'insécurité. Pour une fois, on a voulu donner la parole aux populations pour recueillir leur propre perception, leur propre point de vue sur c'est quoi la sécurité, quelles sont leurs préoccupations sécuritaires. Et nous avons aussi examiné un peu les réponses à ces priorités pour pouvoir finalement faire des recommandations aux partenaires techniques, à l'État.
Qu'est-ce qui sous-tend cette démarche d'aller vers les populations? Vous avez estimé qu'elles n'ont pas été suffisamment approchées, qu'elles ne sont pas écoutées?
Alors, ce qui est clair, c'est qu'au Mali, la société civile, elle existe, elle est assez hétérogène, mais elle n'a pas suffisamment été associée aux différents processus de paix que notre pays a connus. Et donc, pour une fois, on s'était dit qu'il était important d'écouter les acteurs de la société civile pour pouvoir recueillir leurs propres points de vue, qu'elles se sentent considérées, parce que la menace actuelle est une menace nouvelle. Nous sommes dans une guerre asymétrique. On ne peut pas raser la tête de quelqu'un en son absence. Les populations, si crise il y a, elles sont les premières victimes. Et puis, de notre point de vue, ce sont les populations qui aussi avaient quelques propositions de solutions pour pouvoir sortir de la crise.
Alors, écouter les populations comme vous l'avez fait, apporte quoi à la compréhension du problème et de ses enjeux?
Alors, écouter les populations, ça permet surtout de comprendre les dynamiques locales. C'est surtout de relever quelques initiatives individuelles et locales en matière de paix et sécurité, mais aussi de faire une sorte de cartographie de l'insécurité et de proposer des solutions adaptées à chaque zone. Et selon qu'on soit au nord, au centre et au sud, il y a des dynamiques. Et pouvoir donner en tout cas cette nouvelle lecture et sortir un peu des lectures top-down qui sont définies de l'extérieur et de solutions souvent importées qu'on a testées ailleurs et qu'on vient imposer dans un contexte différent. Donc les populations étaient les seules capables de dire comment elles perçoivent l'insécurité, comment elles vivent ça au quotidien et comment il faut s'en sortir.
Le diagnostic, globalement, finalement, c'est quoi? C'est des solutions pas adaptées qui font du pays un champ d'expérimentation. C'est un accent trop considérable, mais sur les aspects sécuritaires au détriment du reste.
Alors, absolument. C'est-à-dire que le constat est cinglant. Hein, c'est que la crise est partie de 2012. Elle était circonscrite dans les régions du Nord. Et finalement, le centre, le Nord, le Sahel occidental, tout le Mali a été affecté d'une certaine manière. Donc, nous ne sommes pas loin de l'embrasement. Et, du point de vue des populations, la réponse militaire, elle est certes importante, mais elle est insuffisante et telle qu'elle est en train d'être mise en œuvre, d'ailleurs, elle crée plus de frustration avec souvent des lots d'exactions à Boulkessi et dans d'autres localités du Mali. Donc, du point de vue des populations, il est important qu'elles soient valorisées et qu'on crée des mécanismes de dialogue entre les forces de défense et de sécurité et elles-mêmes afin de restaurer la confiance qui commence à être perdu. Les populations pensent qu'il ne peut pas y avoir de sécurité sans justice, qu'elles savent quelles sont un peu les personnes qui sont concernées par ces violences, quelles sont les typologies des groupes et quels sont les acteurs. Donc elles sont disponibles à collaborer, mais elles veulent juste que l'État leur tende la main et que l'État écoute leur voix.
Le livre blanc, il souligne d'entrée de jeu d'ailleurs qu'il n'y a pas une crise au Mali. C'est important dans la compréhension du problème?
Absolument. Il ne faut pas penser qu'il y a une crise à partir de 2012, parce qu'en le pensant, et on oublie un peu tous les terreaux favorables sur lesquels s'appuie cette crise récente, ce qu'on appelle crise, c'est de dire que finalement, le Mali, il y a un problème de gouvernance au Mali de façon générale, et donc il y a besoin de faire une sorte de refondation de la gouvernance, une sorte de relecture de la gouvernance de la sécurité qui place au centre la sécurité humaine et non pas seulement la sécurité militaire.
Vous l'avez dit, le pays est vaste du nord au sud, donc les problèmes diffèrent. C'est des réponses variées aussi.
C'est ce que nous avons essayé de proposer en faisant des recommandations spécifiques pour les régions du nord, des recommandations pour les régions du centre et des recommandations pour les régions du sud. Et parce que le sud aussi, là, pour le moment, n'est pas tout à fait pris en compte par les politiques. On s'est dit que c'est important de considérer les dynamiques, notamment autour des mines d'or et autres, et pour éviter que demain, le sud soit le nouveau foyer de l'insécurité.
Alors, parlant donc de recommandations, si on doit résumer tout ça en quelques mots, qu'est-ce que vous proposez aux décideurs de changer finalement?
Alors, ce qu'on propose, c'est d'aller vers les populations, de s'appuyer sur des leaders locaux qui ont encore la légitimité, qui n'ont pas perdu la confiance des populations, et d'écouter qu'est-ce que les populations ont en fait à proposer, et ensuite d'adopter une vision qui serait plutôt une approche de sécurité humaine, c'est-à-dire que qui arrive aussi non seulement à apporter la réponse sécuritaire, mais aussi à accompagner les populations dans l'accès aux services sociaux de base, santé, éducation et justice.
Docteur Brema Elidiko, je vous remercie.
Merci à vous.